Pendant les mois de juillet et d'août, Radio Présence met sa grille aux couleurs de l'été avec une sélection des meilleures émissions et de nouveaux rendez-vous. Radio Présence, ressourcez-vous.
Présence.
Radio Présence, 15h.
Les arts sacrés. Les arts sacrés, une émission proposée et présentée par Marie-Madeleine Ray.
Celui qui entre par la porte, c'est lui, le pasteur, le berger des brebis. Bonjour à tous. Cette parole de Jésus rapportée par l'apôtre évangéliste Saint Jean au chapitre 10 est l'écho de celle des évangélistes dit synoptique, « Je suis le berger de mon troupeau, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. » Saint Jean nous dit, « Jésus parlait ainsi aux pharisiens. Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans la bergerie sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est lui le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a conduit dehors toutes ses brebis, il marche à leur tête et elles le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un inconnu, elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne reconnaissent pas la voix des inconnus. » Jésus employa cette parabole en s'adressant aux pharisiens, continue Saint Jean. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. « Amen, amen, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Ceux qui sont intervenus avant moi sont tous des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra aller et venir et il trouvera un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie, pour qu'ils l'aient en abondance. » Saint Jean met l'accent sur les voleurs, les usurpateurs qui pourraient bien, par leurs paroles faussées, induire en erreur les pauvres brebis naïves qui suivraient n'importe qui. Jésus met en garde tous ceux qui se laisseraient séduire par des tentations diverses sous prétexte de protection ou de connaissance du bon droit. Les pharisiens sont les premiers visés. Et aujourd'hui, nous pouvons nous poser la même question. Tous ces miroirs aux alouettes que les médias nous font miroiter, ne cachent-ils pas malhonnêteté et autres turbitudes? Sommes-nous sûrs de ne pas être du côté des pharisiens qui ne veulent pas entendre la bonne parole? Les peintres, sculpteurs, vitraillistes, graveurs, imagiers se sont emparés de ce thème et nous allons regarder certaines œuvres concernant ce passage d'évangile du bon pasteur. Les catacombes de Rome sont très riches pour cela. Dans celle de Saint Calixte, par exemple, une fresque représente Jésus, debout, de face, un bâton à la main, tenant de sa main droite les quatre pattes réunies d'une brebis posée sur son cou. Peint à la sanguine sur le mur blanchi, le bon pasteur et ses brebis forment un groupe champêtre. Deux brebis de chaque côté, peintes symétriquement, l'une levant la tête et regardant Jésus, l'autre broutant l'herbe. Pourtant, au premier regard, on peut s'interroger. Ces brebis, aux longues pattes fines et à la queue très longue et fournie, font penser à des loups qui rôderaient autour du berger et de sa brebis. Mais justement, cette brebis sur les épaules du sauveur est de même type, pattes longues et queue fournie. Donc ce sont bien des brebis que ce peintre du IIe siècle a voulu peindre sur les murs de la catacombe Saint-Calixte à Rome. Il faut croire que l'on ne coupait pas les queues des brebis à cette époque-là. Des arbres et de l'herbe complètent la peinture et lui donnent une touche apaisante. Restons dans les catacombes, celle de Sainte Priscille cette fois-ci, où un médaillon cerclé de rouge enserre un pasteur peint à la romaine, c'est-à-dire vêtu d'une toge blanche courte, agrafée sur une seule épaule, des bas noirs et les cheveux coupés ras. Sur ses épaules, une brebis qui dépasse largement et dont les oreilles paraissent des cornes de chèvre. Il tend la main droite vers une autre brebis à ses pieds, munie celle-ci d'une corne verticale partant du front, tandis qu'à sa gauche, une autre brebis regarde vers la première, les oreilles également en forme de corne. Deux arbres de part et d'autre, sur lesquels sont juchés deux gros oiseaux foncés. Le regard du pasteur est vif, les pupilles noires regardant de côté et se détachant sur le fond blanc de l'œil. Un sarcophage en marbre blanc du IVe siècle montre sur un de ses côtés un jeune pasteur de face tenant un gros bâton en forme de crosse dans sa main gauche. Il est vêtu comme un jeune pâtre avec une tunique courte, aux plis savants ramassés à la ceinture et de chaussures hautes retenues par des lanières jusqu'au-dessous des genoux. Son visage est juvénile, ceint de cheveux mi-longs, percés de coups de trépan. À ses pieds, une brebis lui lèche la main droite. Jésus, car c'est ici sa représentation, est entouré de quatre disciples, deux par deux, de part et d'autre. Ceux de gauche tendent une main bénissante vers Jésus. Ceux de droite lèvent leur main droite, paume ouverte. Les plis des vêtements sont profonds. La laine sur le dos des moutons est réaliste, l'expression des visages est sereine. Ce morceau de marbre, savamment sculpté, est plein de douceur. Le marbre semble avoir durci après avoir été modelé souplement dans une pâte tendre. Un siècle après, au Ve siècle, une charmante sculpture prend naissance encore dans le marbre blanc. Un jeune berger, debout, appuyé sur sa jambe droite, tandis que la gauche se relâche comme un cheval au repos, tient de part et d'autre de son buste les pattes d'une brebis. Celle-ci, à cheval sur son cou, lève la tête et regarde en arrière, sa petite queue relevée. Le garçon est vêtu d'une tunique courte, retenue par une ceinture, un baudrier lui croisant la poitrine, soutenant un petit réticule cylindrique, orné d'une frise percée de trous de trépan. Les sandales, lacées haut sur les mollets, confortent l'impression de puissance naissante dans cette jeune vie. Les cheveux longs et frisés encadrent le visage serein, bouche entr'ouverte, regard perdu au loin. Cette œuvre anonyme du Ve siècle, qui se trouve au musée du Vatican, est une petite merveille grandeur nature, et dont la souple décontraction annonce l'insolente désinvolture du David de Michel-Ange. À Ravenne, à la même époque, 5e siècle, le mausolée de Galla Placidia est décoré de mosaïques où le bon pasteur tient la meilleure place dans la lunette centrale. Au centre, le bon pasteur est assis, tenant de sa main gauche la croix et caressant de la main droite une brebis venu lui dire sa reconnaissance. D'autres moutons s'égayent autour, trois de chaque côté. L'herbe est bien verte, des arbres à palmes ponctuent l'arrière-plan. Jésus est en jaune et bleu, et ses pieds sont croisés dans des sandales. Calme, douceur et sérénité président à cette mosaïque du Ve siècle, très connue, dans ce mausolée de Galla Placidia à Ravenne. Ces exemples des premiers temps chrétiens nous ont retenu un long moment. Il faut se rendre compte qu'à cette époque, les artistes préféraient représenter le Christ sous des formes symboliques plutôt que de le représenter en croix. Cette croix du supplice infamant pour un roi et pour le Messie devait être remplacée pour l'édification des premiers fidèles, si bien que nous pouvons trouver beaucoup d'exemples de ces époques de persécution. Franchissons quelques siècles et arrivons au XVIe, où fut construit le beffroi qui supporte le gros horloge de Rouen. Une arche d'époque Renaissance soutient cette œuvre magnifique et son plafond est sculpté d'un médaillon représentant le bon pasteur. Taillé dans la pierre en haut relief, le Christ tenant sa croix semble s'échapper de cet oculus tout en caressant une brebis venue poser sa patte sur son genou. Trois autres brebis, batifoles de part et d'autre, en toute liberté, et un paysage de forêt tapissent une partie du fond. Sculptées sur les côtés de l'arche, deux scènes de paysages peuplées de moutons, paissant tranquillement, complètent l'ensemble.
Collecteurs d'impôts et de nombreux pécheurs s'approchaient de Jésus, l'écoutaient tout leur cœur. Les pharisiens, les scribes critiquaient, murmuraient, il accueille les pécheurs et chez eux va manger. Lequel d'entre vous tous y possède son brebis et qu'une seule d'entre elles un beau jour s'est enfuie, ne laisse dans le désert celles qui n'ont pas bougé pour chercher les gars. Qu'est-ce qu'il est trouvé? Qui es-tu?
Qui es-tu?
Qui es-tu?
Qui es-tu?
Qui es-tu, Jésus? Pourquoi tant de chemin pour une brebis perdue? Qui es-tu?
Qui es-tu?
Qui es-tu?
Qui es-tu?
Qui es-tu, Jésus? Tu nous cherches toujours.
Jour après jour.
Quand il l'a retrouvé, tout joyeux, il la met autour de ses épaules pour mieux la ramener. Rentré à la maison, il appelle ses amis. Venez vous réjouir, j'ai trouvé ma brebis. Ainsi je vous le dis, il y a plus de joie à la maison du Père dans mon royaume à moi. Le jour où un pécheur se lève et qu'il revient, que pour ceux qui restent là, mais n'ont besoin de rien. Qui es-tu?
Qui es-tu?
Qui es-tu?
Qui es-tu,
qui es-tu, Jésus? Pourquoi tant de chemin pour une brebis perdue? Qui es-tu?
Qui es-tu?
Qui es-tu?
Qui es-tu?
Qui es-tu, Jésus? Tu nous cherches toujours.
Jour après jour.
Écoutez, si une femme qui a 10 pièces d'argent vient à en perdre une seule en faisant du rangement, ne va-t-elle pas allumer, chercher et balayer jusqu'à ce qu'elle ait trouvé sa précieuse? Tant de tracas pour une pièce perdue. Qui es-tu?
Qui es-tu?
Qui es-tu?
Qui es-tu?
Qui es-tu, Jésus? Tu nous cherches toujours.
Jour après jour.
Qui es-tu?
Qui es-tu?
Qui es-tu, Jésus?
Tu nous cherches toujours.
Jour après jour.
Qui es-tu?
Qui es-tu? Qui es-tu, Jésus?
Tu nous cherches toujours.
Dans la vallée du Lot, 92.5.
Une gravure du XVIe siècle se rapproche beaucoup de l'évangile du bon pasteur décrit par saint Jean, qui parle des voleurs qui n'entrent pas par la porte. Peter Bruegel, vers 1550, nous donne à voir son interprétation de ce passage. Il met en scène le bon pasteur debout dans l'embrasure de la porte d'une masure en ruine. Il en sort calmement, une brebis sur les épaules, les autres le regardant et attendant de le suivre. On aperçoit dans l'ombre de la bergerie le troupeau fidèle qui va bientôt marcher à sa suite. Il n'y aurait que cette vision du bon pasteur, tout irait bien. Nous serions dans le classicisme le plus plat, si j'ose dire. Or, le champ de vision s'élargit, et là, c'est le chaos total. Car les voleurs s'en donnent à cœur joie. À droite, un grand trou dans le mur permet à un bandit, qui se trouve être un soldat, de s'introduire violemment dans la bergerie, on ne voit que son dos recouvert d'un haubert de fer. À côté de lui, un autre voleur encapuchonné tire une brebis hors du trou. Au-dessus d'eux, un homme vient de poser une échelle contre la pente du toit de chaume. Déjà, un compère a grimpé et s'introduit dans la lucarne. Il va d'ailleurs se trouver nez à nez avec un comparse qui, lui, se glisse dans un trou ménagé de l'autre côté du toit. Et à gauche, le mur est ouvert en deux endroits et trois brigands extirpent les pauvres brebis, manifestement contre leur gré, tandis qu'un autre soldat, homme en tête, s'attaque au mur avec une pioche pour agrandir l'ouverture. Et à l'arrière, en haut de la gravure, à gauche, un berger se défend contre un loup qui veut s'en prendre à ses brebis, sagement rangées en rang d'oignons derrière lui. Car en haut, à droite, le mal est déjà fait. Un autre pâtre s'enfuit devant un loup qui ravage son troupeau en désordre, affolé. Bruegel a bien décrit ici toutes les sortes de loups qui guettent les brebis. Au XVIIe siècle, un grand panneau de petits carreaux de céramique bleue juxtaposés est réalisé à Bahia, au Brésil, à l'église du Bom Jesus. À l'instar des panneaux ornant les palais de Lisbonne, celui-ci est dans la tradition de la contre-réforme qui a franchi l'Atlantique avec les marchands portugais. Au centre, le bon pasteur tient sa brebis sur ses épaules. Le bâton dans la main gauche, il est entouré de brebis fidèles, prêtes à le suivre, jetant sur lui des regards appuyés. Des arbres exotiques ponctuent les côtés et une perspective lointaine font de cette œuvre de céramique à Bahia une prouesse technique. À la même époque, en France, le grand artiste Philippe de Champaigne peint un classique du genre. Sur un chemin de nos contrées tempérées, Jésus s'avance, sandales aux pieds, tunique longue, rose, sous un manteau bleu électrique. Bâton dans la main gauche, il tient fermement de la droite les quatre pattes d'un mouton, bien laineux, entourant ses épaules. C'est l'archétype du bon pasteur. Auréolé finement, le visage du Christ est légèrement souriant, une expression presque ironique sur les lèvres. Moustache, barbe et cheveux châtains partagés en deux, les yeux noirs et vifs regardant le spectateur et le suivant du regard. À l'arrière, un paysage aux arbres verts bordant une rivière sur un ciel d'orage. Ce tableau de Philippe de Champaigne se trouve au Musée des Beaux-Arts de Dijon. Un autre grand peintre européen, celui-ci espagnol, Bartolomeo Esteban Murillo, fait preuve d'originalité en peignant un bon pasteur enfant. Permettez-moi cette diversion, mais c'est un peu comme si David avait peint un Napoléon enfant, coiffé de son tricorne et sa main potelée glissée dans son gilet. Pardon pour cette digression. Revenons à Murillo et à son tableau de 1660, faisant partie des collections du Prado à Madrid. Le jeune enfant aux boucles blondes tient un bâton plus grand que lui dans la main gauche. Appuyé sur sa jambe gauche, il est légèrement déhanché et laisse s'alanguir la jambe droite sous la robe vaporeuse. Trois moutons sont visibles, grassouillés, à la bonne laine soyeuse. Le jeune Jésus gratte la tête de l'un d'eux tout en levant les yeux vers le ciel. Son teint et ses vêtements clairs, associés au blanc des moutons, sortent de l'obscurité dans la lumière irradiée par l'enfant. Au fond, les arbres sombres et le ciel orageux, ici aussi, forment un cadre propice à l'apparition de cet enfant de lumière guidant ses protégés vers le salut. Au XIXe siècle, diverses formes de l'art peuvent être prises en exemple pour illustrer le bon pasteur. Nous allons regarder d'abord une œuvre sculptée, originale, puisqu'il s'agit d'un fronton de confessionnal qui offre dans l'espace d'une lunette la représentation du bon pasteur, de profil, à genoux, bâton recourbé posé sur l'épaule et chapeau pendu dans le dos. Il se penche vers une pauvre brebis prise dans des ronces et, avec d'infinies précautions, il va dégager la malheureuse bête de sa prison d'épines. Auréolé, barbu, Jésus fait preuve d'une grande patience à venir récupérer la brebis perdue, pour laquelle il a laissé le troupeau entier dans la bergerie. Bâton recourbé, disais-je, indispensable au berger pour accrocher une branche ou récupérer un animal. Cet outil utile deviendra la crosse des évêques ainsi que des pères abbés des abbayes, tous protecteurs et pasteurs des âmes fidèles baptisées, consacrées ou non. Ajoutons que la crosse des évêques est tournée vers l'extérieur, symbole de l'universalité de l'appel à tous les hommes de bonne volonté, tandis que celle des pères abbés se tourne vers l'intérieur, symbolisant son pouvoir limité au cercle fermé du monastère. Une icône russe du XIXe siècle nous donne à voir maintenant un Jésus en buste, tenant sa brebis sur les épaules de ses deux mains puissantes, agrippées fermement sur les pattes de l'animal. Celui-ci regarde Jésus avec confiance, et sa tête est très finement peinte. Jésus est revêtu d'une tunique rouge aux nombreux petits plis et un manteau bleu ondulant dans son dos l'entoure largement. Une ceinture verte, hâtivement nouée, complète l'ensemble et l'on remarque sur le devant de la tunique un losange blanc au centre duquel vole une colombe. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. L'auréole dorée entoure le visage du Christ aux cheveux longs et au regard un peu mélancolique. Je ne saurais taire une œuvre d'un peintre dont j'aime vous parler, James Tissot. Cet artiste nantais au prénom américanisé lorsqu'il s'est expatrié, avant d'aller passer 5 ans de sa vie en Terre Sainte, pour peindre in situ les épisodes bibliques dont il a eu la révélation lors de sa conversion. James Tissot nous offre un bon pasteur en action, descendant une falaise abrupte, tenant de façon sûre la brebis sur ses épaules. Il est allé la chercher très haut. Maintenant, elle se tient tranquille, son museau marron tranchant sur la laine blanche de ses pattes et de son dos. Le mouvement de descente d'un rocher à l'autre n'empêche pas Jésus de nous regarder, souriant, un peu fier sans doute de ne pas avoir laissé sa brebis se perdre totalement. La tunique bleue sous le manteau marron et blanc, aux larges pans librement balancés, le chèche blanc autour de la tête, donne cette impression de mouvement rapide de l'homme en pleine force de l'âge qui prend plaisir à descendre sans frein la pente rocheuse accidentée. À l'arrière, une vallée parsemée d'oliviers et dans le V des deux collines, se découpant sur le ciel bleu, le temple de Jérusalem, monumental dans sa blancheur. Tissot n'a pas manqué de représenter l'homme Jésus en pleine action, sauveur des brebis que nous sommes. Nous allons terminer cette émission par 2 vitraux dont les Lotois connaissent l'un des deux. Il s'agit du bon pasteur représenté sur le vitrail de la basilique Saint-Sauveur de Rocamadour. Vitrail moderne, aux couleurs vives, nous y voyons Jésus dans une longue robe rouge, debout, le visage tourné vers la droite. Un mouton s'enroule autour de son cou, dont il tient les pattes de sa main droite. Devant lui, 2 brebis, debout, face à face, dont Jésus caresse la tête de l'une. Une guirlande de fleurs épanouies entoure cette scène bucolique. En dessous, 2 autres moutons s'abreuvent à une source tranquillement. Symbole des âmes perdues et retrouvées, ces ovins sont nos reflets de chrétiens, fidèles ou non. Ce vitrail se trouve derrière l'actuel autel de la basilique Saint-Sauveur de Rocamadour. Second exemple de vitrail, réalisé par un immense artiste contemporain, Max Ingrand, à Notre-Dame-du-Pré, au Mans. L'artiste a représenté la scène en perspective, les moutons en bas, au premier plan, le bon pasteur en haut, tenant sa brebis sur les épaules. La tête de la brebis est proche du visage de Jésus, dans une totale confiance. Bien tenue par les 2 mains de Jésus, elle va rejoindre ses quatre compagnes qui l'attendent, cou tendu, vers le haut. Au premier plan, des pieux jaunes, plantés en demi-cercle, symbolisent la bergerie où attendent les brebis sages. Le symbole de l'Église qui attend les âmes perdues est ici très bien rendu. Le jaune des pieux renvoie au jaune du bâton que tient Jésus, jaune de la lumière du salut. Le traitement anguleux, habituel des figures à la manière de Max Ingrand, n'est sensible que dans la partie supérieure du vitrail. Les moutons sont au contraire traités dans des formes arrondies, adoucies. L'âpreté de la vie errante de la brebis perdue et retrouvée va disparaître de retour à la bergerie, au milieu des autres. L'artiste a sans doute voulu dire que l'Église est le cœur du pardon, de la miséricorde, et que la vie de communauté dans la confiance en Dieu vaut mieux que le repliement sur soi, à l'instar du fils prodigue. Jésus, dont la parole nous a été transmise par saint Jean pour ce passage du bon pasteur, nous offre là une belle image du grand amour de Dieu qui cherche à rassembler ses créatures autour de lui et au sein de son Église sans en perdre une seule. Cette émission est terminée. Merci encore pour votre écoute et votre fidélité. Bonne continuation sur votre antenne.
Les Arts Sacrés. Une émission qui vous a été proposée et présentée par Marie-Madeleine Rey.
Présence.
Vous souhaitez réagir, jouer, communiquer, déposer une intention de prière ? Radio Présence met à votre disposition un serveur vocal au 0892 46 0012.
34 centimes la minute.
Chaque jour de la semaine et à toute heure de la journée, téléphonez au 0892 46 0012.
0892 46 0012.
Le standard des auditeurs.
Vous aimez les émissions de Radio Présence ? Microscopie. Parole d'auteur. Vivante Église. Des clés pour vivre.
Présence.
Toutes ces émissions et bien d'autres encore sont disponibles sur CD. Commandez-les par courrier à Radio Présence,
4 rue des Feuillants, 31300 Toulouse,
ou par email à contact@radioprésence.com.
Présence.
Présence.
L'onde positive.
Né de Marie, la mère des vies.